Vous écoutez, on lit pour vous.
La bataille contre le bruit, un texte de Mathieu Perrault, paru le 13 octobre 2024 dans la presse. Si on se fie aux données européennes, les seules qui remontent dans le temps, le nombre de personnes exposées à un bruit délétère a augmenté de 2007 à 2017. Mais il y a de plus en plus de recherches sur le sujet, ainsi que d'appels à des restrictions en Amérique du Nord. On ne peut pas savoir si le bruit augmente au Canada et aux États-Unis parce qu'il n'y a pas de mesures systématiques et comparables entre elles, explique Richard Neitzel, hygiéniste environnemental de l'Université du Michigan. Il y a des données seulement dans l'Union européenne, puis une mesure adoptée en 2003, ajoute-t-il. M. Neitzel dirige une vaste étude, lancée en 2019, qui mesure le bruit ambiant à partir d'oreillettes d'Apple. Baptisée Apple Hearing Study, elle regroupe plus de 160 000 Américains de 50 États et a déjà permis de mesurer la baisse du bruit ambiant en début de pandémie. Quant aux données européennes, elles montrent qu'entre 2007 et 2017, la proportion de la population urbaine exposée à plus de 55 décibels, ce qui correspond à une conversation entre plusieurs personnes, est passée de 15 % à 21 % lorsqu'on parle du bruit des routes. Les rails et les aéroports importunent beaucoup moins de gens, mais là aussi, on note une augmentation. Seul le bruit industriel, celui qui provient des usines, des sites de fabrication, des chantiers de construction, n'a pas augmenté dans les villes européennes. Pas seulement Louis. Dans la dernière décennie, de nombreuses études ont confirmé ce que soupçonnaient depuis longtemps les spécialistes dans ce domaine mal aimé de la santé publique, les effets du bruit sur notre santé ne touche pas seulement Louis. Le bruit augmente le risque de problèmes cardiovasculaires, de diabète et d'autres problèmes métaboliques, explique Hugh Davies, hygiéniste industriel de l'Université de Colombie-Britannique. Nous avons étudié les ouvriers d'une scierie. Ils risquent davantage de mourir des conséquences cardiovasculaires de l'exposition à long terme au bruit que d'un accident avec les machines qu'ils opèrent. M. Neitzel a publié en 2015 et 2017 des études montrant que les coûts des problèmes cardiovasculaires que génère le bruit aux États-Unis s'élèvent à plusieurs milliards de dollars par année. Ceux des dommages à l'ouïe sont 10 à 20 fois plus élevés. Mais on sous-estime probablement grandement les dommages cardiovasculaires et métaboliques du bruit, insiste-t-il. Selon l'Union européenne, parmi les facteurs environnementaux causant des problèmes de santé, le bruit arrive au deuxième rang, derrière la pollution atmosphérique, mais devant les contaminations chimiques alimentaires et aquatiques. La musique. Autre sujet de recherche fécond, la différence entre le bruit intempestif et celui qu'on s'impose volontairement, comme la musique. Quand j'étais adolescent, beaucoup d'experts s'inquiétaient des dommages à l'ouïe dont tous les utilisateurs de Walkman souffriraient. Mais on n'a pas vu cet effet, note M. Neitzel. Avec l'engouement généralisé observé au cours des 10 dernières années pour les oreillettes, est-ce que cette crainte est légitime? Avec l'Apple Hearing Study, nous voulons aussi voir si l'écoute médiatique par les oreillettes cause des dommages à l'ouïe et aussi si elle a des effets cardiovasculaires ou métaboliques, répond M. Neitzel. En savoir plus, 50 % augmentation du risque d'hypertension associée à une exposition durant 30 ans dans une scierie à un environnement de travail dépassant 85 décibels, ce qui équivaut au bruit que fait une tondeuse à gazon. Source, Occupational and Environmental Medicine. 47% augmentation du risque d'hospitalisation associée à la perte auditive. Source, American Public Health Association. 46% augmentation des coûts de santé associés à la perte auditive. Source, American Public Health Association. C'était « La bataille contre le bruit », un texte de Mathieu Perrault, paru le 13 octobre 2024 dans la presse.
Les Métis. Des siècles pour obtenir une reconnaissance. Un texte de Marc Poirier, de Franco-Presse, paru le 24 octobre 2024 dans Le Courrier de la Nouvelle-Écosse. Ils chassaient le bison et giguaient au son des violoneux. Ils priaient Kitchi Manitou et Libunjeu, le bon Dieu. Porteurs de cultures autochtones, françaises et écossaises, ils ont inventé une langue, le Mi'kmaq. Ils se sont battus et se battent toujours pour leurs droits. Ce sont les Métis. Les unions entre autochtones et colons européens sont survenues très tôt dans l'histoire de la Nouvelle-France. Le premier enfant connu d'un couple mixte est André Lanier, né vers 1619 à Port-la-Tour, en Acadie, fils de Louis Lanier et d'une Canadienne. La naissance d'une véritable communauté métisse dans ce qui est aujourd'hui le Canada se déroule cependant bien plus tard et bien plus loin des côtes de l'océan Atlantique. La traite des fourrures en sera la genèse. Au cours du XVIIe siècle, coureurs des bois, trappeurs et négociants français, puis ceux nés en Nouvelle-France, prennent d'assaut la région des Grands Lacs. Plusieurs de ces aventuriers s'unissent avec des femmes autochtones. Mais ce n'est qu'au siècle suivant que de petits groupes familiaux mixtes s'établissent un peu à l'écart des autochtones et des Blancs. La Compagnie de la baie d'Hudson. En 1670, la Compagnie de la baie d'Hudson, CBH, voit le jour. Elle obtient une charte royale britannique qui lui donne le monopole du commerce de la fourrure dans la terre de Rupert, un immense territoire allant du nord du Labrador jusqu'aux Rocheuses. Bon nombre d'officiers et autres employés de la baie d'Hudson fondent des familles avec des Autochtones. En 1811, la CBH accorde à l'un de ses actionnaires, l'Écossais Thomas Douglas, comte de Selkirk, un vaste territoire qui couvrait 5 fois la superficie de l'Écosse et qui s'étendait de la Saskatchewan actuelle jusqu'au nord-ouest de l'Ontario d'aujourd'hui, débordant même dans des parties des États américains actuels du Minnesota et du Dakota du Nord. Lord Selkirk y fonde une colonie au confluent des rivières Rouges et Assiniboine dans le Manitoba actuel. Il attire des Écossais et des Irlandais pour peupler le nouvel établissement qui devient la première colonie agricole du Canada. Mais la naissance de cette colonie est perçue comme une menace par la grande rivale de la CBH, la Compagnie du Nord-Ouest, CNO, et par les Métis qui l'approvisionnent ou qui y travaillent, dont Cuthbert Grant. Celui-ci prend la tête d'un groupe de Métis qui décide d'expulser les colons de la Rivière Rouge. Lors d'un combat, le gouverneur de la colonie, Robert Semple, et plusieurs habitants trouvent la mort. Les conflits prennent fin lorsque les deux compagnies fusionnent en 1821. La nouvelle compagnie de la baie d'Hudson se retrouve alors avec un surplus d'employés. En conséquence, plusieurs agents métis décident de partir pour aller s'installer à la Rivière Rouge avec leur famille. C'est à cet endroit que prendra naissance la communauté métisse du Manitoba. Mais d'autres conflits surviennent. En 1835, la CBH prend directement le contrôle de la colonie de la Rivière Rouge et forme le Conseil d'Assiniboine, qui devient un véritable gouvernement local au sein duquel les habitants métis et canadiens français y sont représentés aux côtés des Écossais et des Irlandais. D'une colonie à une province. Au cours des prochaines décennies, les métis deviennent de plus en plus nombreux au sein de la colonie et s'opposent avec plus de vigueur au Conseil d'Assiniboine. En 1867, c'est la Confédération. Deux ans plus tard, la CBH vend la terre de Rupert au gouvernement du Canada. Les métis sont offusqués que tout se soit passé sans qu'ils aient un mot à dire. Ottawa pousse la provocation en dépêchant des arpenteurs pour cartographier la région, sans égard aux métis qui y habitent. Craignant l'arrivée massive de colons anglo-protestants de l'Ontario, les métis, menés par un jeune membre instruit de leur communauté, du nom de Louis Riel, chassent les arpenteurs et s'emparent d'un poste de traite. C'est la rébellion de la Rivière Rouge. Quelques mois plus tard, un gouvernement provisoire, dont Louis Riel devient le président, est chargé de négocier l'annexion de la colonie au Canada comme cinquième province. Les pourparlers mènent à la création du Manitoba en juillet 1870, avec certaines garanties et certains privilèges pour les métis, dont la promesse d'une réserve de 1,4 million d'acres de terre. Mais entre-temps, un certain Thomas Scott, qui avait tenté de renverser le gouvernement provisoire, est condamné à mort par une cour martiale quelques mois avant la création de la province. En août, un détachement militaire envoyé par Ottawa pour maintenir la paix cherche à venger Scott. Riel fuit aux États-Unis. Malgré les promesses de la loi sur le Manitoba, des centaines de métis sont chassés de leurs terres par des colons, principalement ontariens, et trouvent refuge plus à l'ouest. Les métis de cette région entreprendront à leur tour une résistance, la rébellion du Nord-Ouest, en convainquant Louis Riel de revenir de son exil et d'en prendre la tête. Après la défaite à Batoche, Riel se rend et est pendu le 16 novembre 1885. La lutte se poursuit. Au Manitoba, les Métis ne constituent alors plus que 7 % de la population. Au cours des décennies suivantes, les Métis de l'Ouest seront confrontés à la pauvreté, au racisme et au dénigrement. De nouvelles organisations prennent forme pour défendre leurs droits et font quelques gains. Les revendications et les pourparlers des années 1960 et 1970 aboutissent à l'adoption de la Charte des droits et libertés en 1982 dans le cadre du rapatriement de la Constitution canadienne. Les Métis sont reconnus en tant que peuple autochtone au même titre que les Indiens, nom alors utilisé pour désigner les Premières Nations et les Inuits. En 2013, la Cour suprême du Canada reconnaît que le fédéral a failli à son obligation de distribuer aux Métis les terres promises lors de la création du Manitoba. Des négociations s'ensuivent et aboutissent à une entente en 2016 entre la Fédération Métis du Manitoba et Ottawa. Puis, en 2021, les deux parties signent un accord reconnaissant l'autodétermination et l'autonomie gouvernementale de la communauté métisse. En 2023, le fédéral reconnaît certains gouvernements métis de l'Ontario, de la Saskatchewan et de l'Alberta. En octobre 2023, Wab Kinyou est élu premier ministre du Manitoba. Il est le premier autochtone à réaliser cet exploit dans une province canadienne. Comme il l'avait promis en campagne électorale, la première loi qu'il fait adopter par l'Assemblée législative est la reconnaissance de Louis Riel comme premier ministre du Manitoba. Une longue, très longue boucle de boucler. C'était les Métis, des siècles pour obtenir une reconnaissance. Un texte de Marc Poirier de Franco-Presse, paru le 24 octobre 2024 dans Le Courrier de la Nouvelle-Écosse.
Des cartes pour viser l'équilibre. Un texte de Rosemée Autonne-Témorin, paru le 2 octobre 2024 dans La Presse. Je dînais avec des collègues quand l'un d'eux a fait preuve d'une humilité qui m'a renversé. Il nous a avoué avoir toujours cru être un chum moderne qui s'acquittait de la moitié des tâches familiales. Mais là, sa blonde venait d'acheter un paquet de cartes qui le plongeait dans une sérieuse remise en question. Comme j'adore la douce vulnérabilité et que je suis de nature discrète, je me suis mise à applaudir en criant « Je veux tout savoir !» Mon collègue m'a alors parlé d'un véritable phénomène créé par l'Américaine Eve Rodsky. Diplômée en droit de Harvard et spécialisée en gestion organisationnelle, Eve Rodsky travaillait tout en menant de front la majorité des tâches domestiques essentielles au bien-être de sa famille. Épuisée, elle a dressé la liste de tout le travail invisible qu'elle accomplissait et l'a envoyé à son mari, qui ne s'en est malheureusement pas formalisé. Eve s'est donc dit qu'elle devait trouver une manière de l'inciter à l'action. Je me serais pour ma part dit qu'il était temps de trouver un autre conjoint, mais je n'ai jamais été reconnue pour ma patience. Eve Rodsky a rencontré plus de 500 personnes à travers le monde pour identifier ce qui doit être fait pour assurer le bon fonctionnement d'un foyer et surtout la manière d'exécuter ses tâches de façon efficace. En 2019, elle a créé un plan pour un partage équitable des responsabilités. Son livre, Fair Play, s'est rapidement vendu à plus de 250 000 exemplaires. Et l'année suivante, on pouvait se procurer le jeu de cartes du même nom. C'est ce jeu qui avait amélioré les choses chez mon collègue. Il m'a expliqué qu'il réalisait maintenant à quel point sa blonde s'était longtemps occupée de ce que le quotidien avait de plus aliénant. La prise de conscience avait été amère sur le coup, mais le processus s'était révélé bénéfique. J'ai aussitôt acheté le jeu de cartes. Je précise tout de suite qu'il est en anglais, mais comme il s'agit de mots élémentaires avec des illustrations, je l'estime accessible à la majorité des francophones. En toute franchise, je m'attendais à m'asseoir avec mon partenaire pour qu'on évalue qui faisait quoi et que la pile la plus haute génère une culpabilité révolutionnaire. Sauf que non. À ma grande surprise, les 102 cartes sont plutôt là pour qu'on établisse quelles sont les activités importantes pour nous, puis qui s'en occupera dans la semaine à venir. Il n'est pas tellement question de savoir qui fait quoi en ce moment, mais plutôt de planifier la suite d'une vie à deux. Une approche moins cathartique, mais probablement plus pérenne que celle que j'imaginais. Concrètement, il s'agit de s'asseoir en tête à tête quand on a une heure libre et l'humeur joyeuse. Il faut ensuite trier les cartes et mettre celles qui ont un sens pour nous dans un même paquet. Par exemple, nul besoin de 40 cartes relatives aux soins des enfants dans mon cas. Ne reste plus qu'à piger chaque carte du dit paquet pour en discuter. Qui prendra la responsabilité de concevoir, planifier et exécuter les activités de la fin de semaine à venir? La routine du matin. L'achat de cadeaux pour les fêtes, le renouvellement d'assurance, les rénovations, le ménage, etc. Le choix se fait selon les préférences, capacités et disponibilités de chacun. L'objectif n'est pas d'avoir le même nombre de cartes à la fin de la joute, mais plutôt de savoir précisément qui fera quoi dans les jours à venir. Une fois l'esprit plus tranquille, vient l'espace nécessaire pour s'épanouir, croit Eve Rodsky. Si je ne pense ni à la planification ni à l'exécution des repas pour une semaine, je peux effectivement pratiquer mon italien, courir, faire la sieste ou voir des amis. D'ailleurs, le jeu de cartes comprend non seulement les tâches relatives à la vie de famille, mais aussi des activités qui favorisent la connexion et le bien-être, voire la spiritualité. Le but n'est pas que de gérer, mais de mieux vivre. Après une semaine, on peut brasser les cartes à nouveau ou faire des ajustements. Par la bande, on apprend. Que ce soit à développer de nouvelles compétences ou à reconnaître le rôle invisible que jouait notre partenaire dans l'équilibre familial. Maintenant, est-ce qu'on devrait avoir besoin d'un jeu de cartes pour partager équitablement les tâches qui tiennent un foyer debout? Évidemment pas, mais considérant que la plupart des travaux de recherche indiquent que les femmes continuent d'assumer la majorité des travaux ménagers et des travaux liés aux soins des enfants, selon un rapport publié par Statistique Canada en 2021, je suis prête à toutes les propositions pour rétablir un certain équilibre. Est-ce qu'on devrait avoir besoin d'un jeu de cartes pour être cru quand on dit qu'on en fait trop et qu'on est à bout de souffle? Évidemment pas. Mais si ça peut acculer certaines personnes au mur, ce sera ça de gagner. Est-ce qu'on devrait devoir payer une trentaine de dollars pour séparer des tâches de manière plus juste? Non plus. Je me permets donc de préciser qu'une conversation franche peut découler d'une liste qu'on aurait conçue soi-même sans débourser un sou. Je serais curieuse de savoir qui aura toutefois ajouté la création de la dite liste à sa charge mentale. Je mets 10 dollars sur la femme si on parle d'un couple hétérosexuel. Bref, ce que j'ai applaudi pendant ce dîner entre collègues, ce n'est pas un jeu de cartes, mais l'ouverture d'une personne prête à revoir ses a priori pour mieux veiller au bien-être des gens qu'elle aime. Et ce, nonobstant les standards qui teintent la culture dans laquelle on a trop longtemps évolué. J'applaudis celles et ceux qui acceptent de changer dans ce monde qui réclame et nécessite des bouleversements. Et je promets d'apprendre sous peu comment gérer un pneu crevé, mon amour? C'était « Des cartes pour viser l'équilibre », un texte de Rose-Aimée Autonne-Témorin, paru le 2 octobre 2024 dans La Presse.
Nouveaux logements seront vendus à 60 % de leur valeur à Vancouver. Un texte de Radio-Canada, paru le 19 septembre 2024 sur Ici Colombie-Britannique. Jusqu'à 2600 nouveaux logements, construits sur le terrain Heatherlands à Vancouver, seront vendus à 60 % de leur valeur, selon une annonce conjointe de la province, de la ville de Vancouver et des Premières Nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Le projet est présenté comme une initiative pour le logement accessible, dans le cadre de laquelle la province financera 40 % du prix d'achat des logements. Les 60 % restants sont à la charge des acquéreurs. Ainsi, pour un logement d'une chambre coûtant 850 000 $, la province financera 340 000 $. Pour un logement avec deux chambres en vente au prix de 1 300 000 $, la province aidera l'acheteur à hauteur de 520 000 $. Pas une subvention. Le premier ministre de la province, David Eby, a précisé que le financement provincial de 40 % n'est pas une subvention, mais bien une aide qui doit être remboursée au bout de 25 ans ou lorsque le propriétaire vend son bien. Il a ajouté qu'une surveillance stricte sera mise en place pour empêcher les gens de spéculer sur les biens immobiliers. Cette parcelle de 8,5 hectares est située dans la rue Heather, entre la 33e avenue Ouest et la 37e avenue Ouest, juste à l'ouest du parc Queen Elizabeth. Pendant trop longtemps, l'idée d'accéder à la propriété a été hors de portée pour beaucoup trop de gens, c'est-à-dire des gens qui gagnent un revenu décent, qui sont exclus du marché et qui ne voient pas comment devenir propriétaires, a déclaré le premier ministre David Eby lors du dévoilement du projet jeudi. M. Eby a indiqué que le coût de la province s'élevait à 670 millions de dollars. L'initiative Heatherlands s'adresse aux acheteurs de la classe moyenne qui répondent aux critères suivants. Être citoyen ou résident permanent du Canada, au moins un acheteur du ménage doit avoir résidé dans la province pendant les 24 mois consécutifs précédant l'achat. Avoir au moins 18 ans. Les acheteurs ne doivent pas être propriétaires d'un autre logement au Canada ou ailleurs au moment de la clôture de l'achat. Les acheteurs doivent disposer d'un prêt hypothécaire préapprouvé et d'un acompte minimal de 5 % du prix d'achat de 60 %. Le logement doit être utilisé comme résidence principale. Wilson Williams, conseiller et porte-parole de la Nation Squamish, a déclaré que le projet Heatherlands avait été conçu par les trois premières nations, Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Citation: « Il s'agit d'une approche novatrice et typiquement autochtone du développement immobilier. Nous laissons l'accès à nos terres pour soutenir la culture et la viabilité économique de notre population, mais aussi pour aider à fournir des logements dans une ville qui en a désespérément besoin. » Fin de citation, a-t-il expliqué. La construction du complexe immobilier devrait commencer l'année prochaine. C'était 2600 nouveaux logements seront vendus à 60 % de leur valeur à Vancouver. Un texte de Radio-Canada, paru le 19 septembre 2024 sur Ici Colombie-Britannique.